qu'est-ce que c'est qu'une concentration ouverte à tout ce qui appartient à la nature du yoga? Une concentration ouverte.
Non, une concentration qui est ouverte à tout ce qui est. C'est une concentration qui ne s'oppose à aucune chose. Ce n'est pas une concentration ouverte. C'est une concentration qui est ouverte. Ça veut dire qu'il ne faut pas rejeter de soi certaines choses et faire une concentration exclusive sur un point donné en négligeant tous les autres. Toutes les possibilités doivent être admises et poursuivies.
Ici, c'est notre seul objectif doit être le divin lui-même, vers qui, le sachant ou sans le savoir, quelque chose dans notre nature secrète aspire toujours. Quelle est cette chose qui aspire?
C'est la partie de notre être qui n'est pas toujours la même dans tout et qui est instinctivement ouverte à l'influence du psychique. Il y a toujours une partie, quelquefois justement très voilée, dont nous ne sommes pas conscients, mais il y a toujours dans l'être quelque chose qui est tourné vers le psychique et qui reçoit son influence. C'est ce quelque chose qui est l'intermédiaire entre la conscience psychique et la conscience extérieure. Ce n'est pas dans tout le monde la même chose. Dans chacun, c'est différent. C'est le point de sa nature ou de son caractère par lequel il peut toucher le psychique, où il peut recevoir l'influence psychique. Ça dépend des gens. Chacun, c'est différent. Chacun a un point comme ça. On peut sentir aussi que il y a certaines choses qui tout d'un coup vous poussent, vous élèvent au-dessus de vous-même, vous ouvrent comme une porte sur quelque chose de plus grand. Ça peut être beaucoup de choses, et ça dépend de la nature de chacun. C'est la partie de l'être qui s'enthousiasme pour quelque chose. C'est cette capacité d'enthousiasme. Il y a deux choses principales. Celle-là, la capacité de s'enthousiasmer qui fait qu'on sort de son inertie plus ou moins grande pour se jeter d'une façon plus ou moins totale dans la chose qui vous enthousiasme, comme par exemple l'artiste pour son art, le savant pour sa science, et en général, toute personne qui crée ou qui construit a une ouverture, l'ouverture d'une faculté spéciale, d'une possibilité spéciale qui crée en vous un enthousiasme. Quand ça peut être actif, alors quelque chose de l'être s'éveille et il y a une participation de presque tout l'être à la chose faite. Il y a ça, et puis ceux qui ont une faculté innée de gratitude, ceux qui ont un besoin ardent de répondre avec chaleur, dévouement, joie à quelque chose qu'ils sentent comme une merveille qui est cachée derrière toute la vie. Derrière le moindre petit élément, le moindre petit événement de la vie, qui sentent cette beauté souveraine ou cette grâce infinie qui est derrière toute chose. J'ai connu des gens qui ne savaient pour ainsi dire rien, qui étaient très peu éduqués, dont le mental était d'une qualité tout à fait ordinaire, et qui avaient en eux cette capacité de gratitude, de chaleur qui se donne, qui comprend et qui remercie. Eh bien, pour eux, le contact avec le psychique était très fréquent, presque constant. Et dans la mesure où ils en étaient capables, étaient conscients. Pas très conscients, mais un peu conscients dans le sens qui se sentaient portés, aidés, soulevés au-dessus d'eux-mêmes. Ce sont les deux choses qui préparent le plus les gens. Ils sont nés avec l'une ou l'autre, et s'ils en prennent la peine, ça se développe petit à petit. Grandit. Nous disons la capacité d'enthousiasme, quelque chose qui vous projette en dehors de votre petit ego misérable et mesquin. Et la gratitude généreuse, la générosité de la gratitude qui se jette aussi en reconnaissance en dehors du petit égo. Ce sont les deux plus puissants leviers pour entrer en contact avec le divin dans son être psychique. C'est ça qui sert de lien avec l'être psychique. Le lien le plus sûr. Dans les êtres les plus vilains, est-ce qu'il y a quoi?
Quelque chose à spire.
Oui, mais même dans les asuras, même dans les adversaires, même dans les monstres, il y a quelque chose. Il y a toujours un coin, une sorte de faille un point sensible que généralement on appelle une faiblesse, mais c'est la force de l'être, celle-là. Le point par lequel ils peuvent être touchés. Parce que même dans l'être le plus obscur et le plus dévoyé, même dans celui dont la volonté consciente et de lutter contre le divin, malgré eux, malgré tout, leur origine est divine. Et ils ont beau faire, beau essayer de se couper de leur origine, ils ne le peuvent pas. Volontairement, consciemment, ils essayent tout ce qu'ils peuvent, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas. Même l'être le plus monstrueux, il y a toujours un moyen de le toucher. Le divin, l'action du divin dans le monde agit toujours comme une limite à l'excès du mal. Et en même temps, donne une puissance illimitée au bien. Mais c'est cette puissance illimitée du bien qui, extérieurement, dans la manifestation, sert de limite à l'expansion du mal. Naturellement, pour la vision très limitée des êtres humains, il paraît quelquefois que le mal n'a pas de limite et qu'il va jusqu'à son maximum, mais ce maximum lui-même est une limite. Il y a toujours un arrêt, parce qu'il y a un point où le divin se dresse et dit « Tu n'iras pas plus loin. » Que ce soit les grandes destructions de la nature ou les monstruosités des hommes, il y a toujours un moment où le divin intervient et empêche que ça aille plus loin.
frère. Ceux qui ont cette aspiration sans le savoir, est-ce qu'ils progressent aussi sans le savoir? Est-ce qu'ils progressent aussi sans le savoir?
Oui.
Alors, tout le monde progresse toujours, n'est-ce pas?
D'une certaine manière, oui. Seulement, ça peut ne pas être apparent dans une existence. Parce que quand il n'y a pas la participation consciente de l'être, le mouvement est relativement lent. Même relativement vis-à-vis de la courte durée de la vie humaine. Et alors, il se peut très bien que, par exemple, au moment de la mort, un être semble ne pas avoir progressé. Que même quelquefois il semble avoir été à reculons, avoir perdu ce qu'il avait au commencement de sa vie. Mais si on prend la grande courbe de la vie de son être psychique, à travers beaucoup d'existences, il y a toujours un progrès. Chaque expérience qu'il a eue dans une de ses existences physiques lui sert à faire un progrès. Mais c'est l'être psychique qui progresse toujours. L'être physique, dans l'état où il est maintenant, va arriver à un certain point d'ascension et il redescend. Il y a des choses qui peuvent ne pas redescendre d'une façon grossière, mais enfin il redescend. On ne peut pas le nier. L'être vital, pas nécessairement. Et l'être mental non plus. L'être vital, s'il sait se brancher sur la force universelle, peut très bien n'avoir aucune rétrogression. Il peut continuer une ascension. Et l'être mental, c'est tout à fait certain. Il est complètement libre de toute dégénérescence s'il continue à se développer normalement. Alors, ceux-là font toujours des progrès tant qu'ils restent coordonnés, n'est-ce pas? Et sous l'influence du psychique. Ce n'est que l'être physique qui croit et qui se décompose. Mais cela provient de son manque de plasticité et de réceptivité. Et par sa nature même, ce n'est pas inévitable. Par conséquent, il y a tout lieu de croire qu'à un moment donné, à mesure que la conscience physique elle-même progressera consciemment et volontairement, et bien dans une certaine mesure et de plus en plus, le corps lui-même pourra d'abord résister à la déchéance, qui doit évidemment être le premier mouvement, et puis peu à peu commencer à croître en perfection intérieure, jusqu'à ce qu'il surmonte les forces de décomposition. Mais à vrai dire, c'est la seule chose qui, pour le moment, ne progresse pas. Tout le reste est en progrès. Mais cette substance elle-même, c'est-à-dire cette substance physique matérielle qui se forme, constitue un organisme qui vit pendant un certain temps sous une forme donnée et puis cette forme décroît et se dissout. La substance elle-même qui constitue ces formes successives, à travers toutes ces formes, elle progresse. C'est-à-dire que la substance moléculaire, cellulaire, peut-être même cellulaire, moléculaire et atomique, est en progrès dans sa capacité d'expression de la force et de la conscience divine. À travers tous ces organismes, cette substance devient de plus en plus consciente, de plus en plus lumineuse, de plus en plus réceptive, jusqu'au moment où elle aura atteint une perfection suffisante pour devenir un véhicule possible pour la force divine elle-même, qui pourra se servir d'elle comme elle se sert des éléments des autres parties de la création, comme le mental ou le vital. Et à ce moment-là, la substance physique sera prête pour manifester le monde, la conscience nouvelle, la lumière nouvelle, la volonté nouvelle. C'est à travers tous les siècles, par des vies innombrables, en passant par des organismes innombrables, servant à des expériences innombrables, elle se, pour ainsi dire, elle s'affine, elle se prépare, elle devient de plus en plus réceptive et ouverte aux forces divines. Alors un homme, en tant qu'être individuel momentané, peut ne pas avoir l'air de progresser, mais le progrès est continu. À travers lui, comme à travers tous les organismes. Puis alors, je pensais que c'est pas très consolant. C'est tout de même une consolation parce que au fond, il n'appartient qu'à chaque être individuel de précipiter le mouvement du progrès en y travaillant consciemment. Cette liberté-là est laissée à chacun. Alors, il n'a qu'à en profiter. Il n'y a pas de loi inéluctable qui empêche qui que ce soit de participer consciemment au progrès universel. Cette liberté-là lui est donnée. Alors, pas de questions? Plus de questions? Rien? Plus rien ou tu as quelque chose à dire?
Qu'est-ce que ça signifie quand on voit dans un rêve un serpent blanc avec deux têtes?
Ça dépend du contexte. C'est difficile à dire. Logiquement, ça doit être le sens de l'énergie purifiée. De tête, ça dépend du contexte. Ça veut dire des circonstances dans lesquelles on voit qu'est-ce qui est arrivé avant, qu'est-ce qui arrive en même temps, qu'est-ce qui est arrivé après. Si c'est seulement un serpent comme ça, de tête.
C'était dans cette chambre, je ne sais pas qui était là, mais dans le tiroir ici de Gary. Il y avait le serpent et dès que j'ai ouvert, c'est sorti alors qu'il a pris par le queue. Et ça t'a mordu, mais ça n'a rien fait. Alors qu'il a pu sortir de l'autre fenêtre.
Il était blanc. Et il avait deux têtes. Tu es sûr qu'il a mordu?
Je ne sais pas.
Enfin, tu te souviens comme ça. Dans quel tiroir?
C'est là où tu gardes les fleurs.
La boîte?
Oui.
Jeté dehors.
Pas jeté, mais tu l'as laissé se sortir de là. Tu l'as mis sur la fenêtre et c'est sorti.
Tout à fait blanc.
Non?
Tout à fait blanc.
Je crois.
Les yeux. Tu n'as pas vu. Bon. Quand c'est arrivé?
Deux ou trois jours.
Alors, méditation.